C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Lundi 5 juin, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a un avertissement de smog pour le Grand Montréal. Actuellement, on a 11 degrés, ciel partiellement nuageux. C'est du soleil, mais par contre, il y aura plus de nuages en après-midi et également de la fumée, un peu l'effet, et même beaucoup là, des feux de forêt. Alors, ce sera perceptible au cours de l'après-midi, le maximum 23 degrés. Pour la nuit, il y a un faible risque d'averse avec un minimum de 14. Et puis demain, ce sera généralement nuageux. Il y aura de la pluie, peut-être même un orage au cours de l'après-midi. Les vents sont modérés et le maximum prévu autour de 19 degrés. Et mercredi, c'est 17. C'est vraiment le retour à des valeurs de saison. Ce qui retient l'attention, bien sûr, les feux ce matin, les feux de forêt. La Côte-Nord, Sept-Îles, évidemment, l'Abitibi, Témiscamingue, qui sont durement touchés. Il y a des milliers de Québécois qui ont dû être évacués, d'autres qui sont en attente d'évacuation. Et tout de suite, on va aller à Sept-Îles parler avec notre collègue de la salle des nouvelles, Carl Marchand. Carl, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, on peut constater encore une fois ce matin que la ville de Sept-Îles, là, s'est carrément enveloppée par la fumée.
Mais c'est ça, on la sent ce matin, la fumée, on la voit moins, on la sentait pas hier du tout, mais ce matin, on la sent bien en ville, la fumée à Sept-Îles. Peut-être que ça va se dissiper en cours de journée, parce qu'il y a toujours cet immense incendie de plus de 30 000 hectares, c'est plus gros que Laval, là, qui brûle au nord de l'aéroport. Là, on voit le panache à partir de l'aéroport de Sept-Îles. Très gros feu, ce qui fait qu'il y a un avertissement là de fumée qui est en vigueur sur la côte nord des Escoumins jusqu'à Sept-Îles également. L'armée est arrivée en ville à partir d'hier, ils ont commencé à travailler à des opérations de ravitaillement vers Schefferville. Pourquoi? Parce que le feu bloque la seule ligne de chemin de fer qui mène vers Schefferville. Puis aussi, ils aident au ravitaillement de la Manganie parce qu'il y a une série de malheurs là, sur la côte nord. Il y a un pont qui a cédé. En fait, il y a une fissure dans un pont à 100 km à l'est de Sept-Îles. Donc, l'armée aide à ravitailler un peu tout le monde. Puis, ben, Bénédicte en parlait tantôt, mais ce drame à Portneuf sûrement, ça fait que c'est une semaine difficile, disons, sur la côte nord, Paul.
Bon, et les autorités, comme à tous les jours, vont faire le point un peu plus tard, là, vers 10h30 ce matin.
Voilà. Il n'y aura pas d'école à Sept-Îles aujourd'hui parce que les autobus sont réquisitionnés pour les services d'urgence. Donc, pas d'école primaire, secondaire, pas de cégep. Les autorités vont faire le point à 10h30. Ça va prendre de la pluie, cependant, avant que la situation s'améliore. Et il n'y a pas de précipitation attendue à Sept-Îles avant cette nuit. Un petit peu, mais c'est vraiment dans la journée de demain qu'on attend les grosses averses qui pourraient venir prêter main forte aux sapeurs ici.
Merci, Carl. On va se reparler un peu plus tard. Si on fait le point quand même, il y a des éléments à retenir ce matin. Tout d'abord, c'est une période intense en termes d'incendie de forêt. On parle bien sûr du Québec, mais on le voit depuis quelques semaines maintenant en Alberta, Colombie-Britannique, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse. Et c'est une saison de feux de forêt, si on peut prendre l'expression, qui est jamais vue. Deuxième constat, il est impossible de combattre tous les incendies. On doit établir une priorité, c'est-à-dire les zones de population plus importantes où il y a des évacuations, et aussi tout ce qui concerne les infrastructures. Et on peut penser à Hydro-Québec, qu'il faut protéger les corridors d'alimentation, les centrales, pour être certain là qu'on se retrouve pas avec des feux de forêt au nord puis des pannes d'électricité majeures vers le sud. Alors, il faut prioriser. Le Québec s'est tourné vers de l'aide, c'est-à-dire les Forces armées canadiennes, la France qui va envoyer des sapeurs qui sont spécialisés dans les incendies de forêt. Il y a des gens qui sont vraiment mobilisés de partout. Mais ce qu'on doit retenir aussi, c'est que ça demeure absolument imprévisible. Et on a beau là déployer des stratégies, on est très dépendant de la météo. Quand les nuits sont plus fraîches, ça aide. Mais s'il n'y a pas vraiment de pluie, ça prolonge un peu la période avant qu'on puisse prendre le contrôle de la situation. Alors, ça veut dire que, pour l'instant, on cible les feux que l'on considère les plus stratégiques et on déploie le maximum d'efforts dans ces secteurs-là. Et je pense, là on vient de parler de cette île, mais l'Abitibi-Témiscamingue, 31 feux en activité, 23 qui sont non maîtrisés. On va parler plus tard avec le maire de Lebel-sur-Quévillon. Tout ce secteur de l'Abitibi où on a dû procéder à des évacuations. Puis il y a des gens à qui on dit, ben attendez, mais soyez prêts, parce que quand on va donner la vie, Ben, vous aurez quand même peu de temps pour sortir. Il y a des gens qui quittent, il y en a qui veulent pas. C'est toujours un peu la même situation. Mais c'est probablement en termes de volume, je dirais, d'hectares de forêt qui flambent, une saison là exceptionnelle et record. Là. Et je veux pas me servir de ça pour faire des rappels sur l'effet des changements climatiques, mais on en a quand même une démonstration. Et je vous le dis, ces phénomènes extrêmes de météo, que ce soit de la grande chaleur, des feux, des périodes, disons, de canicule plus à répétition, puis également des tornades, ouragans, si vous voulez, dans le sud des États-Unis, mais ici, on le voit, là, des effets quand même tourbillons de vent dans l'Outaouais, ben ça va se répéter, malheureusement, de plus en plus souvent. Bénédicte en a parlé de cette tragédie, donc, dans cette petite municipalité sur la Haute-Côte-Nord, Portneuf-sur-Mer, alors qu'on a appris le décès d'un père de famille, 4 enfants, il y a une petite fille qui a survécu, puis d'autres personnes autour qui étaient parties en fin de semaine pour aller pêcher le capelin, ce qu'on appelle une partie de pêche nocturne, qui est une activité très prisée dans le coin. Je parlais avec Richard, qui est originaire, évidemment, de Matane, qui me racontait que capelin, ben ça, tu pêches ça sans trop de forcer, là. C'est quasiment à la puise, puis t'en ramasses une quantité impressionnante, les bancs de poissons qui suivent les marées. Et c'est ce qui s'est passé, donc, en fin de soirée. Alors, le détail de cette tragédie, bien sûr, il y a peu d'informations, il y a une enquête policière, il y aura enquête du coroner, j'imagine. Alors, ils étaient sur des VTT, est-ce qu'ils ont été coincés? Je comprends que la marée peut frapper rapidement, là, passer d'un mètre d'eau à 4, puis t'es coincé, un sol instable, tout ça se peut. Mais évidemment, c'est l'horreur, puis on comprend dans des petites municipalités comme ça, où tout le monde se connaît. C'est comme si les gens avaient été coincés quand la marée a frappé. Ce matin aussi, je veux parler de deux nouvelles importantes dans le domaine de la santé. D'abord, un congrès qui se déroule à Chicago sur le cancer, et spécifiquement sur le cancer du poumon. Et on a présenté le fruit de recherche. Et vraiment, il y a un médicament ciblé qui est administré en plus du traitement de chimiothérapie pour les gens qui souffrent du cancer du poumon, mais un cancer qui en est à ses premiers mois, si on veut, après détection. Autrement dit, qui est localisé, que les métastases se sont pas déjà répandues. Et il semble qu'à tout le moins, il y a une espérance de vie qui se rattache à ce traitement. Et on a pu voir plusieurs spécialistes venir raconter ses progrès. Il y a deux approches, donc ce médicament et aussi un traitement, et on le voit depuis plusieurs années maintenant, plus personnalisé. Donc, on fait le profil génétique du patient, de sa maladie, et on est capable d'avoir quelque chose de plus ciblé. C'est quand même assez extraordinaire. Et ici, souvent, je vous parle de l'importance de la recherche dans le monde. Semaine dernière, on parlait avec un spécialiste à Lausanne de cette intervention auprès de quelqu'un qui était complètement paralysé et qui, grâce à la recherche, est capable de marcher. Pas à 100%, mais ce sont des progrès majeurs. Et c'est le docteur Denis-Claude Roy qui est directeur scientifique de l'Institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est allé à Paris assister au congrès annuel de la Société internationale de thérapie cellulaire et génétique et qui a présenté les résultats d'une recherche concernant le traitement de la leucémie. Et c'est une stratégie qui donne des résultats quand même plus qu'intéressants. En gros, c'est de faire pousser des cellules d'un donneur pour qu'elles soient capables de s'attaquer de façon spécifique aux cellules leucémiques du patient. Et c'est une percée majeure dans le monde. Et ça se passe ici, chez nous. Et ça prouve encore une fois à quel point la recherche scientifique est importante. Docteur Roy est une sommité dans le monde, dans ce type de recherche. Et il vient d'en faire la preuve encore une fois. Très bien, je fais une courte parenthèse sur cet événement qui s'est produit hier à Washington, alors qu'un avion, un Cessna, est entré dans l'espace aérien de la capitale américaine. Et c'est interdit, à moins d'y être autorisé, ce qui fait qu'il y a eu déclenchement d'une opération militaire importante par le NORAD. Il y a deux F-16 qui ont été dépêchés sur place. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait 4 personnes à l'intérieur et que malgré les tentatives là, de contact radio, ça a été un échec. Et on s'apprêtait à abattre le Cessna. Et puis finalement, on l'a laissé aller, on l'a escorté, accompagné. Et le Cessna a disparu pour finalement s'écraser dans l'après-midi. Et on a localisé les 4 corps de personnes qui étaient à l'intérieur. Alors, c'est un Cessna qui appartient à une société commerciale. Et tout indique qu'à l'intérieur se trouvait le pilote, se trouvait une femme, sa fille, sa petite-fille également. Alors, ça reste tout ça confirmé, mais pourquoi le contact radio s'est pas fait? Pourquoi l'appareil s'est écrasé? Ben, il y a eu une enquête. Un mot aussi sur le Tour de Lille. Pour la première fois, il y a eu plus de participants au Tour de nuit qu'au Tour de Lille. Ce qui fait qu'on a pas loin de 40 000 participants, là, 36 000. Et la température était quand même assez remarquable, là, notamment hier. Il y a eu un certain nombre de petits problèmes, mais c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un parcours et les chantiers à Montréal se multiplient. Et des fois, ça improvise. C'est-à-dire qu'on s'installe, puis on oublie de le dire, puis on n'a pas la permission, mais on le fait pareil. Alors, il y a eu comme ça quelques obstacles. Mais somme toute, en tout cas, je voyais des courriels des auditeurs qui ont participé. Il y en a pour qui c'était la première fois. C'est une expérience. D'abord, de pouvoir se promener sur l'île en toute sécurité, vraiment. Il n'y a pas de véhicule, il n'y a rien. Il faisait beau. Des fois, j'ai vu des tours de l'île avec des météos pas mal moins agréables. Puis en même temps, ben c'est de participer à la grande fête du vélo. Alors, ça a été un immense succès. Sur le plan économique, surveillons de très près le prix du pétrole après la décision de l'Arabie saoudite de réduire sa production de 1 million de barils par jour. Déjà ce matin, on le voit sur les marchés, il y a une augmentation du prix du brut. Et comme dirait l'autre, ça prend pas une grande formation, une explication savante pour déterminer que dans les prochaines heures, il y aura une augmentation ici du prix à la pompe. C'est un classique. Alors, c'est l'objectif recherché de la part de l'Arabie saoudite. D'autres pays suivent, d'autres non. Mais compte tenu du volume de production de l'Arabie saoudite, ça demeure un joueur quand même qui influence de façon importante. Et on prévoit qu'il y aura possiblement d'autres annonces pour les prochaines semaines en termes de réduction. Puis ça arrive un moment où, vous le savez, l'été, ben il y a une consommation quand même forte parce qu'il y a plus de déplacements. Premier sujet économique. Le deuxième, il y aura la décision de la Banque du Canada mercredi concernant le taux directeur. On sait que pour l'instant, c'est stable. Est-ce que ça va demeurer stable? On ne le sait pas. Il y a des économistes qui invitent la Banque du Canada à augmenter son taux directeur. Peut-être pas cette semaine, mais dans les prochaines semaines, compte tenu des données récentes de l'économie qui montrent que l'économie canadienne est toujours en pleine croissance, même si les taux d'intérêt sont quand même élevés. Ça n'a jamais été aussi élevé depuis 2007. C'est une augmentation de la croissance de 3 % et pour ce qui est de la croissance, c'est nettement au-dessus de ce qui était anticipé. L'inflation, ça demeure élevé, plus ou moins sous contrôle. Donc, ces économistes disent, il faut mettre un peu plus de poids sur le frein. Et ça veut dire augmenter les taux d'intérêt. Puis je le sais, beaucoup d'auditeurs, puis on en parle toutes les semaines avec Pierre-Yves, il y a une pression qui s'exerce pour les gens qui sont en train de renouveler des hypothèques, des gens qui ont des projets et qui reportent ces projets, des gens qui font des choix sur certaines de leurs activités. Alors, mercredi, on va suivre ça de près. L'autre élément intéressant ce matin, c'est dans la presse. Surpris, non, puis vous allez comprendre pourquoi, c'est que beaucoup de biens volés se retrouvent sur les sites de vente en ligne. Et l'exemple qu'on donne, ce sont les produits qu'on retrouve dans les quincailleries. Et il y a des vols dans les quincailleries. Et donc, cet article dans la presse nous indique, et c'est le président de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, Darvaux, Richard Darvaux qui parle, qui dit que 89 % des quincailliers estime que les plateformes de revente facilitent l'écoulement de marchandises volées. Il y a des produits neufs, produits de quincaillerie, des scies, des batteries, n'importe quoi. Flambant neuf, c'est mis en vente et c'est vendu en dessous du prix. affichée par les quincailliers. Il n'y a aucune preuve que ça a été acheté légalement. Ça ne veut pas dire parce que c'est neuf que c'est le fruit d'un vol, mais quand même. Et là, ils disent que ça n'a plus de bon sens. Et qu'on a beau avoir des systèmes de protection, il y a des gens qui commettent des vols, repartent avec des pièces, et tout de suite, sur Marketplace, c'est disponible. Je parlais de ça avec Richard ce matin, il dit « Ben oui, c'est à peu près la place où on vend le plus. » Et les gens posent moins de questions. Alors, vous comprenez les quincailliers de vouloir, évidemment, amener des changements dans la réglementation, un peu comme on l'a fait avec Airbnb. D'ailleurs, quand je suis allé à New York, ce qui m'a frappé, on le voit dans les pharmacies, mais dans d'autres types de commerce, c'est le nombre de produits placés sur des tablettes avec des portes barrées. Impossible de prendre quoi que ce soit, à moins de demander à un commis d'ouvrir la porte vitrée et de prendre le produit. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? OK, on va vous le donner. À la pièce. Tu sais, c'est comme les gens plus âgés vont se rappeler de la commission des liqueurs. Tu rentrais là, puis tu dis, OK, j'aimerais ça avoir une bouteille de rouge, puis on allait te chercher ça en arrière, puis on t'apportait ça. Ben, je veux dire, à cause du vol qu'on constate, vol à l'étalage, en alimentation, ça commence à se voir, mais dans la vente au détail, également, c'est assez fréquent. Un mot aussi pour vous parler des pompiers de Montréal. On apprend ce matin dans la presse que le service des incendies abolit la brigade étudiante de vérification. C'est en place chaque été depuis plusieurs années. Puis l'idée, c'est quoi? C'est d'aller vérifier les fameux avertisseurs de fumée. Puis là, on prend des étudiants, ils sont formés pour ça, puis ils font le tour. Et là, il semble qu'on a demandé aux pompiers de faire la job. J'essaie de comprendre le raisonnement parce que la semaine passée, le directeur nous a dit « Non, non, maintenant, on cible les endroits où on pense qu'il y a des problèmes. C'est pour ça qu'il y a moins d'inspections, mais on inspecte les immeubles où il y a le plus de monde puis le plus de dangers potentiels. » Je dis « OK. » Mais pourquoi pas aller inspecter, comme on le fait avec des étudiants, l'ensemble des logements? Après 12 ans d'existence, la brigade ne sera pas de retour. L'offensive se fera différemment cette année. L'impact... Et là, je vous parle toujours de la déclaration officielle là, du service des incendies. L'impact n'était pas ce qu'on souhaitait. Les gens, depuis la pandémie, travaillent à la maison. Les gens se plaignaient qu'on les dérangeait et il y avait beaucoup d'absents. Excusez-moi, là. C'est une inspection pour la sécurité. Même si les gens se plaignent, même si ça te dérange, c'est quoi le problème? Je sais pas quelle est la mentalité du service des incendies de Montréal, mais on va se le dire, là. C'est assez dur à suivre. Et surtout, ce n'est pas limpide, ça ne répond pas très clairement aux questions, et on sait qu'on a des endroits qui demeurent problématiques. Est-ce qu'on se prive d'étudiants pour des raisons de budget? Je le sais pas, mais il me semble que ça peut pas nuire. Et l'argument de « tu cognes chez quelqu'un, puis ça ne tente pas de qu'un étudiant entre pour l'inspecter », on s'en fout. Je veux dire, puis d'abord, c'est une fois, là, il passe pas, c'est... C'est assez étrange. L'Ukraine, la Russie qui affirme dans la nuit de dimanche à lundi avoir repoussé une offensive de grande envergure dans le Donbass. Également, il y a des tirs d'artillerie qui sont encore une fois rapportés un peu partout à travers le pays. Et puis un mot pour vous dire que Harry se retrouve devant le tribunal. C'est le premier membre de la famille royale qui va témoigner dans un procès depuis 1909, quelque chose comme ça. Alors, c'est le premier, vraiment, là, qui, depuis même plus que 1909, depuis le 19e siècle. Tout ça parce qu'il dit que son téléphone a été piraté par les journaux à potins, qu'on a raconté plein de trucs sur lui. Il est une des victimes. Il y a d'autres vedettes également qui ont été touchées. Alors, ça commence officiellement cette semaine.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
On va faire le point sur les feux de forêt au Québec et sur toutes les opérations qui sont en cours actuellement. Quand vous regardez les chiffres officiels de la SOPFEU, il y a 156 incendies en activité. Et on voit le déploiement, évidemment, des équipes d'urgence. Les Forces armées canadiennes ont été appelées. Il y a de l'aide internationale. On regarde le tout avec le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Monsieur Bonnardel, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
je veux pas aller dans les chiffres détaillés, là, c'est pas ça qui m'intéresse ce matin, mais il y a trois constats que je veux faire avec vous. Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, on a plus de feux au Québec que d'habitude?
Absolument, absolument. Mais M. Arcand, le nombre de feux en activité en zone intensive a augmenté depuis quelques jours. À chaque jour, à chaque entrevue que je fais là, aujourd'hui, ce matin, on est à 156, on est à 138, voilà 48 heures. Pour vous donner un peu le portrait, une statistique qui est pas le fun, mais qui est véridique, on a combattu plus ou moins depuis les chiffres de voilà trois jours, 325 incendies au Québec, puis on a vu ça brûler 11 000 hectares.
Puis quand vous parlez...
Dans les 10 dernières années, à la même date, on avait en moyenne 194 incendies pour 193 hectares. Vous voyez l'énorme différence. Donc, on vit une saison des feux de forêt qui est marquante dans l'histoire.
Donc, plus de feux, plus de superficie de forêt qui brûle, puis évidemment, par la même occasion, plus de municipalités touchées.
Ben assurément, c'est assurément la première fois au Québec que la sécurité publique, la sécurité civile, on a évacué autant de gens pour des feux de forêt dans autant de régions. Il y a deux soucis majeurs, vous le savez, depuis quelques jours, c'est la Côte-Nord et l'Abitibi. La Mingani d'un autre côté à cause du pont Ouzel qui est fermé. Donc ce matin, là, plus ou moins 4 500 personnes encore dans la périphérie, Sept-Îles, Malio-Ténan, quelques secteurs de Sept-Îles qui sont toujours évacués. Du côté de l'Abitibi, c'est près de 5 500 personnes. Donc, on priorise ce matin 35, 36, 37 feux de forêt pour protéger nos infrastructures névralgiques que sont nécessairement Hydro-Québec, protéger nos populations et les infrastructures de ces gens le plus possible.
OK, je veux vous entendre sur Hydro-Québec parce qu'on est très conscient là, des gens qui sont évacués, les municipalités qui font beaucoup de travail pour relocaliser les gens. Mais on sait aussi que, comme on dit, le corridor d'Hydro-Québec est important pour les gens plus au sud. Quelle est la situation qui concerne Hydro-Québec?
Ben, présentement, comme je l'ai mentionné, nos équipes logistiques et autres le priorisent, c'est 35, 36, 37 feux, parce qu'on veut s'assurer de protéger les infrastructures d'Hydro. Vous savez, présentement, là, ce matin, là, j'ai exemple le poste Macquoy à Hydro-Québec dans le secteur de Sept-Îles qui va être priorisé. Donc, on s'assure avec les forces armées, avec la SOPFEU, avec nos avions, avec nos pompiers auxiliaires qui sont en appui et nécessairement l'armée là, qui a été formée. Là, il y en a une centaine qui ont été formées hier. Donc, on priorise, on fait tout en notre pouvoir pour s'assurer de protéger nos infrastructures. C'était Hydro. Vous avez vu, il y a une panne de 250 000 abonnés, là, voilà, 48 heures à cause de la fumée et tout. Donc, faut s'assurer de protéger notre réseau.
À votre connaissance, est-ce qu'il y a des installations, des équipements de Hydro-Québec qui sont plus à risque?
Pas pour le moment. La bonne nouvelle, si je peux le dire ainsi, c'est que du côté de la Côte-Nord, on a de la pluie qui est attendue pour demain, pour plusieurs jours. Ce qui va devenir un souci plus important, mais c'est la belle température, c'est drôle de le dire ainsi, là, du côté de l'Abitibi. Donc, nos efforts sont concentrés sur ces deux régions, alimentées en denrées aussi la Mingani, là, comme je le mentionnais tantôt, parce que le pont Ouzel est fermé. Il sera ouvert d'ici la fin de la semaine, mais seulement aux véhicules légers. Donc, on passe un tuyau pour alimenter en essence les camions citernes pour alimenter en essence donc la Mingani et des avions cargo du côté Nolisée privé et de l'armée pour alimenter en denrées toute la Mingani.
Parlez-moi de l'aide qui vient de l'extérieur. Mmh. Bon, les forces armées canadiennes, c'est une chose, mais la France, par exemple, c'est la France qui offre ou c'est le Québec qui demande aux cousins de venir nous aider?
Ah, on demande, M. Arcand, ma collègue, la ministre responsable des ressources naturelles, a envoyé des lettres à pas mal de pays pour ne pas nommer Portugal, USA, la France, même l'Australie. Donc, on attend d'ici 4 à 5 à 6 jours là, plus de 350 pompiers, soldats formés là, pour combattre le feu. Si on calcule l'armée là, qui est avec nous, là, c'est peut-être près de 300 de ces soldats qui sont sur le terrain, dont 100 formés pour le feu. Des pompiers auxiliaires, ce sont des spécialistes de la forêt qui font des travaux sylvicoles. Donc, on peut dire, avec les 475 qui sont déjà là sur le terrain de la SOPFEU, on peut dire qu'on aura 1000, 1200, 1300 personnes là, sur le terrain là, d'ici 4 à 5 à 6 jours là, pour qu'on combatte les feux. La météo va nous aider, comme je le mentionnais, mais il faut voir qu'on reste aux aguets malgré tout. Là.
Bon, justement, là, ce point de vue-là est important. Là. Le déploiement, évidemment, c'est super efficace. Mais quand vous dites rester aux aguets, avez-vous l'impression qu'on en a pour des semaines? et peut-être plus, là, à, disons, combattre les feux puis essayer de circonscrire au maximum?
Oui. Je vous dirais pas que tout cela va cesser malgré la pluie là, pendant deux, trois jours. Il va falloir qu'on reste aux aguets. Il est très possible. Ben, il va y avoir encore des feux. La saison ne sera pas terminée. La température nous aide parce que les températures basses empêche le feu dans une certaine mesure de se propager. Les vents sont moins forts, moins dominants dans les deux secteurs de la côte nord de l'Abitibi, mais il reste quand même que la SOPFEU, l'armée, la logistique de ces personnes qui s'y connaissent dans ce domaine-là s'assure, comme je le mentionnais tantôt, là, de protéger trois aspects non négligeables, nos infrastructures névralgiques, les villes et les grandes entreprises et les biens, les maisons des gens et nécessairement assurer leur sécurité.
OK. Selon ce que vous savez, quelles sont les communautés les plus à risque là, en termes de population? Sept-Îles, Lebel-sur-Quévillon, Chapec, qu'est-ce qui, quand vous regardez ça, vous dites, là, on a un gros point d'interrogation?
Ben, ça va être l'Abitibi. Du côté de Chapec, on avait évacué plus ou moins 1000, voilà, 48 heures, les gens ont réintégré. Sept-Îles, comme je l'ai mentionné, là, les 4500, avec la pluie attendue demain, ça devrait mieux aller. Il n'y a pas d'autres évacuations de prévues. Donc, on va évaluer tout ça d'ici 48 heures, 72 heures. Ça va rester l'Abitibi. Le point névralgique va rester l'Abitibi à cause de la température qui va être belle, pas de pluie attendue. Donc, on va rester aux avant-postes avec nos équipes là, pour surveiller l'Abitibi le plus possible. Et secteur Clova aussi, la petite communauté, mais quand même qu'il faut surveiller. Donc, on a ciblé, comme je l'ai mentionné, là, 35, 36, 37 là, feux là, qui pourraient être problématiques, qui pourraient causer des soucis là, à quelques-uns maintenant. Il n'y a pas d'avis, d'autres avis d'évacuation pour le moment sur le territoire, autre que cela. Puis nécessairement, comme ma collègue l'a mentionné aussi, pas de feu de forêt, s'il vous plaît. Ne vous déplacez pas en forêt pour aller soit dans vos chalets et autres, là, c'est pas le moment de le faire. La vie là, de ne pas faire de feu les chalets en forme du territoire. Là.
Est-ce que vous savez combien de bâtiments, maisons, cabanes, chalets, camps de pêche ont été détruits par les flammes jusqu'à maintenant?
Oui, non, c'est une bonne question. On n'a pas eu, j'ai pas eu ce rapport encore du ministère à savoir combien de chalets ont été incendiés ou brûlés. Il n'y a pas de villes ou communautés qui ont été touchées de façon majeure pour le moment. Il n'y a pas de grandes entreprises. Il n'y a pas de poste névralgique d'Hydro-Québec. Vous savez, nos équipes là, de la SOPFEU là, sont habituées, malgré le fait que d'habitude, on demande de l'aide des Canadiens de l'Ouest ou de l'Est. Là, malheureusement, c'est l'ensemble canadien ou presque qui est prêt avec ces feux. C'est pour ça qu'on a demandé de l'aide de l'international. C'est pour ça qu'on n'a pas... On n'a pas niaisé, on va le dire ainsi, jeudi dernier, là, quand on s'est rendu compte de la situation, puis on s'est dit, ça va dégénérer si on va pas chercher de l'aide de l'extérieur. On a demandé à l'armée rapidement, M. Blair m'a répondu, brigadier général Boivin, j'ai été en contact avec lui quelques minutes après ou quelques heures après pour nous expliquer un peu ce qui allait arriver rapidement. Donc, ils ont répondu très, très rapidement, puis ça, je vais les remercier, puis je remercie tous ceux qui sont sur le terrain présentement, là, les gens de la SOPFEU, pompiers, policiers, même la Sûreté du Québec. C'est 200 personnes de plus qui sont sur le terrain du côté de Sept-Îles et du côté de Sept-Îles, oui, de la Côte-Nord et du côté de l'Abitibi pour épauler leurs confrères.
Rosie, j'étais au Portugal l'été dernier quand j'ai eu les incendies, les feux de forêt. Et quand on voit le déploiement des équipes qui, dans le cas, là, viennent, par exemple, s'approvisionner sur le Douro, repartent pour arroser les zones où ça brûle, puis que le soir, malgré tout, vous sentez la fumée, puis qu'à Montréal, on va sentir la fumée cet après-midi, là, ça illustre l'importance de ce qui se passe actuellement.
Ben, on mesure peut-être pas, puis je le répète, je l'ai dit hier là, à ceux qui pensent circuler, pas circuler, mais voler au-dessus de ces feux de forêt, c'est interdit de le faire. Partout sur le territoire, quand il y a des feux comme ça. Parce que quand les gens vont voler en hydravion ou autre pour se dire, oh, on est curieux, on va aller voir, ben, ça amène nos avions en terre. Dès qu'on on a un avion, un hydravion ou autre qui circule au-dessus de ces feux, on est obligé de ramener nos avions au sol. Donc, ça nous aide pas. Alors, dans les circonstances, vous l'avez vu sur certaines photos, là, c'est majeur ce qui se passe présentement au Québec. C'est un moment tournant. Au Québec d'avoir autant de feux présentement. Puis autant de feux qui ont brûlé autant d'hectares en si tôt dans la saison. Donc, le post-mortem va être important quand tout cela sera terminé à la fin de l'été ou début de l'automne, mais on est content d'avoir été capable d'aller chercher le plus de ressources possibles présentement sur le terrain. Puis je répète aux gens, on est là pour combattre les principaux feux. Oui, il y a des feux qui sont hors de contrôle, mais ça ne met pas la vie en danger ni nos infrastructures pour le moment.
M. Bonnardel, merci d'avoir pris ce temps. Félicitations à toutes vos équipes parce que c'est pas simple. C'est, disons, jour après jour. Bravo.
On continue le combat. On lâche pas.
Merci. François Bonnardel est le ministre de la Sécurité publique. On vient d'avoir une bonne idée de l'ampleur de ces feux. Je le rappelle, en termes de nombre de feux depuis le début de la saison, d'hectares brûlés, puis de citoyens directement touchés, là, c'est une période record. Puis il y a des gens qui se déploient sur le terrain. Je vous présente ce matin Marilyn Picard. Elle a été pompier forestier pendant 3 ans pour la SOPFEU. Elle est aussi ingénieure forestier. Elle travaille pour une compagnie forestière de la Nation CRI. Elle est présentement au chantier de Chibougamo. Puis elle est arrivée là pour aider, pour prêter main forte jeudi dernier sur le feu à Chapin. Marilyn Picard, bonjour.
Oui, bonjour. Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, merci.
OK. Parlez-moi un peu de l'expérience. D'abord, vous êtes, je le disais tantôt, ingénieur forestier. Vous travaillez pour une compagnie forestière de la Nation CRI. Qu'est-ce qui vous a amené dans la région? Puis qu'est-ce que vous faites exactement comme travail?
Moi, en temps normal, je travaille sur la planification des opérations forestières, autant sur la récolte que sur les chemins. Je suis aussi contremaître en forêt. Mais là, dans le fond, mercredi, quand on a appris que ça brûlait à Châtel, je suis allée au chantier Chibougamo, qui est notre compagnie partenaire. Puis j'ai demandé là au gestionnaire si je pouvais intervenir, puis aider un peu, prêter main forte aux opérations de la SOPFEU. Évidemment, on ne pouvait pas rentrer, même si j'étais une ancienne pompière dans le cadre de la SOPFEU, mais on a pu intervenir là pour la construction de lignes d'arrêt mécanisées. Donc, c'est pour ça que j'ai pu rentrer sur le feu à Châtel puis aider à ce niveau-là.
OK. Dis-moi, pourquoi vous avez, comme ça, offert vos services? Qu'est-ce qui vous a amené spontanément à dire « Je suis disponible puis je suis prêt à aider? »
Bien, la réponse est simple. En fait, on a une suspension des travaux en forêt là, depuis quelques jours. Donc, on se préparait à ça. Mais quand le feu commençait à Châtel, bien, évidemment qu'on ne pouvait plus rien faire avec nos machineries. On ne peut plus couper du bois. On ne peut plus transporter notre bois. Donc, tant qu'à faire du bureau puis rester assis, étant donné que j'ai déjà travaillé à ce feu, j'ai ça dans moi, j'ai l'espèce de passion pour aider puis essayer d'éteindre les feux de forêt. Fait qu'en faisant des lignes d'arrêt mécanisé, c'est une façon pour moi d'encore aider à l'extinction des feux de forêt.
OK, je comprends. Aidez-moi à comprendre votre travail. Quand vous dites aller faire comme ça des lignes d'arrêt mécanisées, qu'est-ce que vous faites exactement?
Ben dans le fond, moi, j'étais en supervision pour des équipes de pelle, de tracteurs, des abatteuses. Donc, on envoie une abatteuse pour aller couper le bois où est-ce qu'on veut passer une ligne. Puis moi, mon rôle, c'est d'aller marcher avant l'abatteuse pour vérifier qu'il n'y a pas de danger pour elle. Après ça, on peut superviser les pelles, les tracteurs pour amener le matériel, pour enlever tous les combustibles possibles puis mettre ça sur le minéral. Comme ça, on fait des coupes feu pour éviter que le feu se propage encore dans la forêt verte, là, ce qui n'est pas encore brûlé. Donc, dans le fond, sous la supervision de la SOPFEU, on fait des barrières, des lignes d'arrêt mécanisées pour empêcher la propagation du feu, par exemple, vers Chapet ou vers d'autres ressources importantes là, à protéger.
Et si vous aviez à décrire la forêt que vous voyez autour de Chapet comme ça, quand vous faites ces travaux-là, ça ressemble à quoi?
Ben, c'est dramatique. C'est la situation d'un feu de forêt comme partout là au Québec en ce moment. On n'a pas vraiment de contrôle sur le feu. C'est les vents qui dirigent le feu. C'est sûr que c'est pas une belle situation. On aide comme on peut, mais la nature, c'est fort, là.
Je veux parler de vous un peu parce que vous venez de décrire votre travail et tout ça. Vous avez quoi, 24 ans, je pense?
Oui, 24 ans.
Et vous êtes né à Wendake?
Oui, j'ai décidé de déménager à Chibougamo pour travailler en forêt sur les opérations forestières. C'est ce qui me passionne. Donc, la région de Chibougamo, c'est vraiment un bel endroit pour moi. Puis, je travaille maintenant pour la communauté CRI de Waspalipi chez Mishtuk. Donc, c'est ça, c'est le fun de voir dans une situation critique de feux de forêt comme ça, les compagnies de la région prêter main forte, tout le monde ensemble, là, faire une espèce de collaboration, même si on est des équipes, ben, des entreprises indépendantes. On travaille en équipe pour justement là, amener le plus de pelles, de tracteurs, d'abatteuses, le plus de contremaîtres possible là, pour répondre aux besoins de la SOPFEU.
Mais dites-moi, des femmes ingénieurs forestiers, de ne pas en avoir beaucoup?
Quelques-unes. Les filles seront majoritairement plus en aménagement forestier, mais moi, je suis vraiment en opération forestière. Donc, à chaque semaine, mon but, c'est de sortir dehors avec mes bottes à cap puis aller voir les opérations.
Ben, lâchez pas. Bravo pour ce que vous faites.
Ben, un gros merci à vous.
Merci, au revoir. Marie-Dine Picard, qui est ingénieure forestière. Elle était pompière également pendant 3 ans pour la SOPFEU et elle participe à ses travaux dans le secteur de Chapin. Et je vous le disais, elle travaille pour une compagnie forestière de la Nation Cris. C'est quand même impressionnant. 24 ans seulement. Puis depuis jeudi dernier, donc elle fait ce qu'on appelle des tranchées, des coupe-feu dans le secteur de Chapin.
L'essentiel de Paul Arcand.
Une nouvelle importante ce matin, c'est une percée majeure dans le traitement de la leucémie. Les résultats d'une recherche ont été présentés à Paris dans le cadre d'un congrès annuel de la Société internationale de la thérapie cellulaire et génique. Et il y a des chercheurs québécois qui ont été honorés, qui ont pu présenter donc les résultats de leur recherche et qui ont aussi reçu parmi une quinzaine de pays une distinction. Il s'agit du docteur Denis-Claude Roy, qui est le directeur scientifique de l'Institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Roy, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand.
Ben, d'abord, avant de parler des prix distinction, parlez-moi de la recherche des travaux que vous avez présentés. C'est donc un traitement pour la leucémie.
Oui, exactement. Écoutez, quand on fait une greffe de moelle, on compte beaucoup sur les cellules du donneur pour éliminer les cellules leucémiques du patient. Mais quand on fait ça, on infuse des cellules du donneur qui pourraient aussi s'attaquer au tissu sain. Alors, on a essayé d'être spécifique. Et ce qu'on a réussi, notre groupe à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Université Montréal, là, c'est qu'on a trouvé une façon d'isoler et de faire se multiplier en laboratoire ces rares cellules du donneur qui sont capables de reconnaître les cellules cancéreuses du patient et puis de les faire pousser en nombre significatif pour être capable de traiter des patients dans une étude clinique. Alors, on les a donnés à des gens qui étaient les pires patients, des patients qui avaient rechuté déjà après une greffe de moelle osseuse, et on leur a donné ces cellules-là pour combattre leur cancer. Alors, c'est une première mondiale, là, ici.
Mais c'est important...
Allez-y.
Non, je voulais dire, c'est important parce que, dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'on prend les cellules bonnes pour lutter contre le cancer, mais on les prend elles seulement.
Oui, exactement. Vous avez super bien compris. Alors, l'idée, c'est que on a été capable d'isoler là, les rares cellules du donneur qui sont capables de reconnaître les antigènes, les cellules leucémiques. On les fait pousser en laboratoire. On les donne en injection intraveineuse à des patients. Et ces cellules-là sont capables de s'attaquer aux cellules leucémiques. Et elles n'ont pas causé dans notre étude, qui était quand même une étude préliminaire. On a traité 10 patients, mais il n'y a pas eu d'effet secondaire significatif. On n'a pas vu vraiment d'effet contre les tissus normaux du patient, mais au contraire, on a observé une activité contre le cancer. Et ça, c'est naturellement très, très intéressant. Ça ouvre la porte à plein d'autres traitements. Là. Puis je voudrais peut-être souligner que ça a été possible grâce au support de Génome Canada, Génome Québec, Biocanérix, la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, M. Ronald et Herbert Black. Puis pour les travaux de mon étudiant, qui est un post-doctorant, là, un bonhomme avec un PhD, qui travaille à optimiser, à développer des nouvelles stratégies anti-cancer à Nasser Masrouri, ben lui, a gagné lui aussi le prix, un des 3 prix pour les meilleurs travaux par un assistant de recherche, un associé de recherche. Et ça a été supporté par Sandra et Alain Bouchard avec la Fondation de l'hôpital Maisonneuve.
Et vous, Dr. Roy, vous avez été aussi honoré donc parmi des représentants d'une quinzaine de pays. Et il y a 2 Québécois qui sont sortis du lot.
Alors exactement, écoutez, on a gagné 2 prix parmi 15 prix, une quinzaine de prix là qui ont été administrés. Il y avait des gens de partout sur la planète. On est extrêmement fiers d'avoir reçu ce prix-là là, qui nous honore comme le meilleur travail canadien en thérapie cellulaire et génique.
Mais ce que je veux souligner, puis on le fait, on a à quelques reprises fait des entrevues ensemble, c'est toute l'importance de la recherche. qui se fait ici et qui bénéficie, vous venez d'en faire la démonstration, à des patients en premier lieu. Si cette recherche avait été faite ailleurs, ben, ce ne sont pas des patients d'ici qui en auraient profité nécessairement. Et donc, le développement de ces nouvelles approches qui vont s'appliquer dans le futur pour aider des gens peut-être à combattre mieux le cancer, peut-être à s'en sortir, à avoir moins d'effets, ça passe par des travaux de recherche, puis ça passe par des travaux qui sont réalisés par des gens comme vous puis vos équipes.
Oh, absolument. Puis c'est extrêmement important que vous le souligniez, M. Arcand. Et ça, ça s'adresse à plein d'autres maladies. Là. Donc, nous, on fait des travaux dans ce domaine-là. Toute l'équipe à l'hôpital Maisonneuve, on développe ça, mais on développe aussi des stratégies contre d'autres cancers, contre des infections. On a des chercheurs qui travaillent pour utiliser des cellules pour guérir des maladies des yeux, remplacer la rétine, maladies pulmonaires, des maladies cardiaques. Là, pratiquement tous les organes peuvent être ciblés dans des approches comme celle-là. Et puis, si vous avez deux minutes, je voulais peut-être vous donner un exemple là, qui est assez futuriste, là, mais qui montre l'utilisation de cellules. Là. Il est même possible aujourd'hui d'utiliser une imprimante en trois dimensions, là, une imprimante 3D, mais au lieu d'imprimer sur du papier ou de faire un modèle en plastique, là, on va utiliser des cellules. Il y a des gens qui sont en train de faire des poumons avec différents types de cellules à différents niveaux pour refaire une structure aussi complexe que celle d'un poumon. Il y a d'autres groupes, nous-mêmes, qui travaillons à utiliser des morceaux de cellules pour injecter, pour induire au toit des effets de réparation des tissus ou de bloquer le système immunitaire quand c'est pas le temps, puis de l'activer dans d'autres situations. Alors, écoutez, c'est tout un domaine d'avant-garde là, qui se développe à grands pas. Puis, au Québec, on a un leadership. Là. Il faut le mentionner, là, on a un leadership. Nos chercheurs québécois sont extrêmement bien positionnés sur l'échelle nationale et internationale. On a une force ici là, qu'on est capable de développer pour le bénéfice de nos patients ici au Québec et qui va bénéficier aux patients à travers le monde. Puis, il y a un impact économique aussi. Là. On développe notre expertise, notre savoir-faire et puis on développe une nouvelle industrie là, dans le secteur.
Mais au moment où vous me parlez, vous êtes à Paris, à Chicago en fin de semaine, il y avait un congrès aussi sur les nouveaux traitements pour le cancer du poumon, puis il y a des espoirs qui apparaissent avec des traitements plus ciblés, un médicament avec de la chimio pour des gens qui ont un cancer du poumon localisé. C'est un autre exemple, là, puis vous me parlez de d'autres types d'organes touchés. C'est fascinant de voir l'évolution depuis les dernières années.
Absolument. Puis là, il y a eu beaucoup d'avancées en leucémie. Comme vous le savez, les leucémies sont des maladies souvent rapidement mortelles en quelques mois. On réussit à avoir des survies maintenant qui peuvent aller de 50 à 80 dépendant des différents types de maladies. Donc, les cancers du sang sont non seulement traitables, mais curables. On est capable de les guérir. Et puis, on développe des nouveaux traitements pour d'autres maladies du sang, et maintenant, ça se développe dans plusieurs cancers. Déjà, les traitements sont déjà avancés pour plusieurs autres. On pense à parler de cancer du poumon, cancer du sein, cancer de l'intestin, cancer du foie. Donc, il y a des nouveaux traitements là, qui sont actuellement en développement et le fait d'être capable de jouer avec les cellules, là, qui en fait, grâce à notre centre de thérapie cellulaire qu'on a développé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui nous permet de moduler les cellules, de leur ajouter, par exemple, un bras qui va leur permettre d'aller s'attacher là, directement aux cellules cancéreuses puis éliminer spécifiquement ces cellules-là. Écoutez, ce sont des avancées qu'on n'aurait pas pensé possibles il y a seulement quelques années. Là. Mais avec les avancements de la science et de la recherche, comme vous l'avez mentionné, ben, on réussit à faire ces avancées-là. Et puis, c'est des patients qui en bénéficient. Puis, on ne fait pas seulement améliorer la survie, là, mais on améliore la qualité de vie. J'ai vu des gens dire, écoutez, j'ai vu mon cancer fondre. Et puis, j'ai pas d'effet secondaire, là. Écoutez, ils nous disent, ça n'a pas de bon sens comparé à la chimiothérapie que je recevais auparavant, là. Pourquoi vous n'avez pas toujours des stratégies comme celle-là?
Docteur Roy, bravo, et ainsi qu'à toutes vos équipes. Merci d'avoir pris ce moment avec nous.
Merci beaucoup, M. Arcand.
Docteur Denis-Claude Roy, qui est le directeur scientifique de l'Institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire, donc relié à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il ne le dira pas parce qu'il est modeste, mais c'est une des sommités dans le monde concernant le développement de ces approches. Je raconte une anecdote. Un jour, un patient québécois se dit « Je vais aller aux États-Unis en pensant que c'est toujours meilleur ailleurs. » Et il rencontre un médecin qui lui dit « Mais pourquoi vous venez ici aux États-Unis? Le meilleur est chez vous à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et c'est le docteur Roy. » Et le monsieur est retourné donc pour se faire traiter au Québec.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, parlons de vol à l'étalage et surtout de la façon dont les équipements, les produits volés se retrouvent en vente sur différentes plateformes. Je disais ça dans la presse ce matin, des gens qui s'aperçoivent que des produits neufs sont vendus en bas du prix coûtant ou en tout cas du prix qui est chargé en magasin. Et évidemment, ben les quincailleries sont très, très préoccupées. Richard Darvaux est le président de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Monsieur Darvaux, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, on a pu observer, là, d'abord, en termes de vol à l'étalage, j'imagine, avec l'inflation, une certaine augmentation, puis aussi de voir que les stocks écoulés, c'est pas les matières, c'est pas les stratégies habituelles, c'est qu'on va sur des plateformes comme Marketplace, puis on vend ce qu'on vient de voler rapidement.
Oui, on dirait que le métier de voleur s'est professionnalisé. C'est rendu quelque chose, puis possiblement que c'est peut-être 1000 ou 2000 individus à travers tout le Québec dans tout type de magasins là qui se créent des petits réseaux, des fois avec la complicité d'employés, hein, en fait de gens qui le font embaucher à l'intérieur même des commerces. Du point de vue des quincailleries, en tout cas, le tiers des vols est possiblement fait avec la complicité de leurs propres employés. Alors là, toutes sortes de stratagèmes peuvent survenir. Par exemple, on trouve un produit d'une certaine valeur, on le met dans son panier, on va dans le centre jardin, vous savez, ces temps-ci, tous les centres jardins sont ouverts, on voit qu'il n'y a pas trop d'employés, on sort l'objet de la boîte, on le met entre deux trucs de terre, et puis la nuit venue, le soir venu, ben on saute la clôture et puis on va chercher l'objet. On est dans un contexte particulier, M. Arcand, parce que face à Amazon, on dit à nos magasins, tentez une meilleure expérience client, et ça passe entre autres par un contact entre le client, l'employé et le produit. On veut pas mettre sous cadenas ou derrière des cages ou les produits parce que les gens veulent les manipuler, veulent regarder les planches, veulent bon. Et quand on fait ça, puis en plus avec le vrac, on dit à nos gens, arrêtez avec le suremballage, offrez. Vous et moi, on a tous eu une fois dans notre vie obligation d'acheter une boîte de clous avec 300 clous ou 500 clous alors qu'on en avait besoin d'une vingtaine. Donc là, on incite nos gens à aller vers le vrac. Mais c'est sûr que ce faisant, on les rend vulnérables au vol à l'étalage. Alors oui, l'inflation a sûrement joué un rôle, vous avez raison, mais je pense que c'est l'arrivée de Marketplace par la grande entreprise Meta Facebook qui a été l'agent de changement.
Mais en même temps, si je suis un voleur, d'aller vendre sur une plateforme comme celle-là, je me mets un peu à risque, c'est-à-dire d'écouler ça, comme on dit, entre amis, puis avec des réseaux de contacts, c'est peut-être moins exposé, c'est peut-être moins efficace. Moi, ça m'étonne un peu de voir que aussi facilement puis aussi rapidement on met ça en vente.
Ben, écoutez, c'est sûr que si vous mettez parcan@gmail.com, ben là, ça se peut qu'il y ait des gens qui fassent des liens avec vous, mais vous pouvez demain, en 3 minutes, ouvrir une adresse Gmail là, qui s'appelle 43-12-29, puis vous la faites disparaître une fois que vous avez vendu votre marchandise. C'est aussi simple que ça. Je regardais encore juste avant notre entrevue les règles pour afficher sur Marketplace. Ben, en fait, il n'y en a pas. Puis pourquoi il n'y en a pas? Parce que Marketplace est pas gentil, mais non, parce qu'il n'y a aucun des deux paliers de gouvernement qui a décidé de dire « Wow, c'est assez ». Ce qu'on voit avec la ministre Proulx versus Airbnb, ben on espère que son collègue Bonnardel va faire la même chose en ce qui concerne Marketplace, qui fait l'appui et le beau temps. Et vous savez, c'est pas seulement de la marchandise volée qu'on retrouve sur Marketplace. C'est aussi un grand pourcentage de marchandises qui ne peuvent pas rentrer dans les quincailleries parce qu'elles ne satisfont pas les normes de construction, CSA ou les normes de santé publique. On retrouve des produits de santé qui sont inaccepté là par Santé Canada, mais on contourne par Marketplace, une compagnie immatérielle, et puis le consommateur est à risque. Alors, moi, j'ai demandé à l'Office de protection du consommateur de faire quelque chose. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, écoutez, M. Darvaux, l'Office de protection du consommateur est là pour encadrer les relations entre les commerces et les citoyens. Et mais là, ce que vous nous parlez, c'est que ce sont des citoyens qui présumément volent de la marchandise puis tentent de les écouler auprès de d'autres citoyens. Si ça devient consommateur à consommateur, ça nous regarde pas. Mais nous, on dit, ben oui, mais le citoyen voleur qui affiche sur Marketplace, c'est parce que la plateforme, qui elle est une entreprise, lui permet de le faire. Donc, intervenir auprès de l'entreprise, on n'a pas de réponse à ce jour-ci.
Dites-moi, est-ce que on retrouve de plus en plus la pratique que moi j'ai observée, exemple dans des pharmacies à New York, là, de placer beaucoup de choses dans des comptoirs puis des présentatoires avec des portes barrées là où ça prend absolument la présence d'un commis pour avoir accès aux produits?
Oui, puis oui, on en a quelques exemples sur l'île de Montréal, entre autres de quincaillerie qui vont dans cette direction, mais les clients, ça chigne un petit peu, ça chiale un peu parce qu'ils trouvent que l'expérience n'est pas super gagnante. Donc, la vraie solution ultime, là, en amont, c'est que chaque produit ait son ADN étiqueté. Comme quand vous achetez une automobile, vous avez un numéro de série qui est propre au véhicule que vous avez acheté. C'est la même chose au niveau de l'informatique. Mais dans un magasin où il y a 50 000 items, mettre ces étiquettes, je dirais, traçables, intelligentes, sur chacun des produits, c'est un coût humain élevé, mais l'étiquette elle-même coûte aussi très cher par rapport au bon vieux code barre. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste à sensibiliser les quincailliers et leurs employés pour la façon de mettre la marchandise par rapport aux caméras pour pas qu'il y ait d'angle mort. Mais la vraie solution, c'est que si l'individu vole pour revendre, mais qu'il y a de la misère à revendre parce qu'on lui coupe là ces plateformes-là, nous, on pense qu'on va régler déjà 50% du problème.
Merci, M. Darvaux. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Richard Darvaux est le président de l'Association québécoise de la quincaillerie des matériaux de construction. Mais je vous rappelle juste quand même une réalité. C'est que les cas de fraude intéressent peu les services policiers. Ils ont pas beaucoup d'effectifs à mettre là-dessus. Alors, même si vous êtes un quincaillier, que vous appelez la police en disant « je me suis fait voler », je vous dis pas qu'ils feront rien, mais ça sera pas une des priorités. Et l'autre élément majeur, c'est d'avoir cette fenêtre incroyable comme Marketplace, où tout se vend. Tout le monde va sur Marketplace. Et quand je dis « tout se vend », tout se vend. Moi, j'ai été étonné de voir des trucs. Tu dis, mais ça se peut pas. Qui s'intéresse à ça? Puis ça finit pareil par se vendre. Et des gens qui vendent des produits neufs avec 50% du prix que tu retrouves en magasin, ben c'est sûr que tu peux te poser la question. Peut-être qu'il n'a pas aimé ça puis qu'il décide de l'écouler. Ça se peut. Ça veut pas dire que tout le monde est voleur. Mais ça veut dire que pour les voleurs, c'est une belle fenêtre.
L'essentiel de Paul Arcan.
Alors, ben, grosse victoire hier, les Remparts de Québec qui sont les champions de la Coupe Memorial.
Oui, pour la troisième fois de leur histoire, ils ont joué un match quasi parfait, victoire de 5-0 sur les Thunderbirds de Seattle. Ils avaient gagné la Coupe en 1971, c'était à l'époque Guy Lafleur, la vedette de l'équipe. 2006, c'était Radulov, et hier, victoire de 5-0, donc un quatrième titre de suite pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a Titan Acadie Batters, les Huskies de Rouyn-Noranda et les Sea Dogs de Saint-John qui avaient gagné les trois tournois précédents. Et pour parler de cette victoire, on va accueillir le président de l'équipe, Jacques Tanguay. Salut Jacques.
Bonjour Alain, comment vas-tu?
Ça va bien. Et toi, comment ça va?
Ça va sur un nuage. Ça s'est déroulé très rapidement. Et on s'est envolé hier soir à 11h de Kamloops, où on vient d'arriver à Québec un matin à 7h.
Et là, la victoire d'hier, Jacques, c'est l'aboutissement de 5 ans de travail. Là, j'écoutais les entrevues de Patrick. Ça a commencé avec le repêchage de certains joueurs qui sont toujours avec vous et qui étaient là hier pour cette victoire contre Seattle.
Écoute, lorsque j'ai été rechercher Patrick en Floride il y a déjà 5 ans, c'était l'objectif qu'on s'était donné, c'était le but qu'on s'était fixé. Puis on a bâti cette équipe-là, pierre par pierre. À chaque année, on a rajouté les éléments qu'on voulait en préparation d'une année très importante. On pensait que ça pourrait arriver l'an passé. Malheureusement, ça s'est terminé rapidement lors d'un 7e match contre Shawinigan. Et cette année, les joueurs ont été exceptionnels.
Dans quel état d'esprit vous vous êtes présenté à Kamloops? Parce qu'on parlait beaucoup de Seattle avant que le tournoi débute. On disait que c'était l'équipe favorite pour remporter le tournoi. Et pourtant, vous les avez battus deux fois là, cette semaine.
On les a battus deux fois, mais ça fait plus de deux mois là, que ça a commencé avec les séries éliminatoires dans la Ligue d'hockey junior. Puis cette année, particulièrement, il y avait quatre équipes, Halifax, Gatineau, Sherbrooke, qui étaient des équipes vraiment dominantes, qui auraient pu se rendre jusqu'au bout puis qui auraient pu aller à la Coupe Memorial. Fait que on n'avait rien à envier au club de l'Ouest puis de l'Ontario. Fait qu'on est arrivé là-bas après avoir gagné la Coupe Gilles Courteau avec toute la confiance que nos joueurs avaient. Ils ont été préparés par Patrick de façon exceptionnelle. Puis surtout, ils savaient tout le travail qu'ils avaient accompli durant l'année, à quoi il allait servir, puis c'est les résultats qu'on a connus hier.
Le hockey junior, on le sait, c'est un cycle. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle chez les Remparts. Il y a plusieurs joueurs qui vont quitter, leur carrière junior est terminée. Mais c'est probablement aussi la fin d'une époque, parce qu'on parle beaucoup de Patrick et de son avenir, mais toi-même t'as laissé entendre là, que t'étais peut-être prêt à laisser ta place à un autre, là.
Alain, on va participer aux cérémonies demain à Québec. On va profiter du moment présent. Mais très rapidement, ma décision est déjà prise. Fait que très rapidement, je vais annoncer les couleurs cette semaine.
Est-ce que tu connais la décision de Patrick aussi?
On en a parlé un petit peu, mais je laisse à Patrick tout le soin là, de prendre ses propres décisions. On est des amis. On est ensemble depuis 26 ans maintenant dans l'hockey junior. On a acheté les Remparts de Québec il y a 26 ans. Malheureusement, on a été obligé de s'en départir à un certain moment donné à travers les années, mais on a vécu des expériences, on a vécu des moments exceptionnels, puis on en a vraiment profité. Puis les athlètes puis la population de Québec nous l'ont fait profiter également.
On regarde ça souvent de l'extérieur, puis on a l'impression que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, quand vient le moment du repêchage de la Ligue nationale, est moins coté que la Ligue de l'Ouest ou la Ligue de l'Ontario. Avez-vous cette impression-là ou si vous constatez la même chose? Puis est-ce que on se rend pas compte justement que c'est une forme de préjugé sur le Québec?
Je pensais pas nécessairement de préjugé, mais ça dépend toujours de la visibilité des recruteurs également, la proximité des recruteurs envers certains athlètes. Et cette année, les joueurs des Remparts de Québec qui ont peu gagné au niveau des trophées individuels, ont démontré que les joueurs du Québec là étaient vraiment d'un autre niveau. Prenez l'exemple de Malatesta, qui a été le joueur par excellence de la série. Il était un choix de cinquième ronde de la Ligue nationale. Il n'a pas été nommé sur l'équipe Canada Junior cette année, probablement par manque peut-être de visibilité ou parce que les instructeurs préféraient des joueurs qu'ils connaissaient, les instructeurs de l'Ontario de mai. Ces joueurs-là ont démontré durant la Coupe Memorial là, qui était vraiment à l'avant-plan des meilleurs joueurs canadiens.
Ça prouve que s'il y avait un club comme les Nordiques à Québec, ça aiderait peut-être au niveau du recrutement.
Ben, probablement. Puis également de voir de plus en plus d'instructeurs québécois participer aux programmes nationaux. Ça, c'est très important.
Parce que la Ligue n'a pas à avoir de complexe. Là. Vous êtes la quatrième équipe du Québec à remporter la Coupe Memorial, je le disais tantôt. Là, quatre tournois consécutifs où le Québec remporte le trophée. Et pour toi, Jacques, ça fait une pas pire année. Rouge et Or, champion football universitaire, puis les Remparts, champion hockey junior.
Oui, ça fait. J'ai vécu en 2006, puis je le revis encore cette année. Et tu sais, Alain, avec le Rouge et Or, j'ai eu l'occasion de le gagner 11 fois la Coupe Vanier, mais dans le hockey junior, pour se rendre jusqu'au bout, c'est probablement le sport à travers le Canada là, qui demande pas le plus d'efforts, mais qui demande le plus de succès là, sur une longue période de temps, parce que les séries éliminatoires de la Coupe Memorial, là, c'est interminable. Ce qu'on vient de vivre là, dans la dernière semaine, c'est 12 jours sur la route à Kamloops. Je veux dire que les athlètes avaient besoin d'être concentrés puis d'être dans leur bulle durant ces 12 jours-là.
Je vais terminer en te posant une question. Je sais pas si tu as vu les conclusions du comité là sur tout ce qui est arrivé dans le hockey junior au cours des dernières années là. Et on recommandait entre autres que il y ait moins de représentants d'équipes sur le conseil d'administration de la ligue, plus de présence féminine et des gens issus des diverses communautés. Comment t'as accueilli ça et comment tu penses que ça va être accueilli au niveau de la ligue?
Je pense qu'au niveau de l'équilibre avec les femmes, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, au niveau des... c'est une ligue qui est privée. Puis les membres, c'est les propriétaires des équipes, généralement. Ils peuvent être aussi bien représentés par une femme que par un homme. Mais je pense pas que ce soit le rôle du gouvernement d'aucune façon de se mêler d'une ligue comme la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On a eu une très, très mauvaise presse cette année, mais ça s'est... Faut faire attention un petit peu. Ça remontait à des événements qui dataient d'il y a plusieurs années. Puis ça ne s'est pas passé juste au hockey, hein. Ça s'est passé dans les universités, ça s'est passé dans les cégeps, ça s'est passé dans toutes les équipes sportives, tous sports confondus. Et le hockey étant notre sport national, puis celui qui est le plus en évidence, ben on a vu des gens qui ont mal agi dans les dernières années. Ils se sont fait taper ses doigts, les conseils d'administration ont changé. Il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais je pense pas que ce soit le rôle du gouvernement de se mêler des circuits privés comme la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
Ben merci beaucoup, Jacques. Félicitations encore une fois. Tu féliciteras tout le monde de notre part.
Je te remercie beaucoup et merci de nous avoir suivis avec autant d'intérêt.
Merci. Salut, Jacques. Merci.
Alors, Jacques Tanguay, le président des Remparts de Québec, mais la réponse est assez claire, là. Je connais pas un propriétaire. C'est comme la Ligue nationale.
Ah oui.
Et c'est pas vrai que les propriétaires vont laisser aller le contrôle à un conseil d'administration.
Alors, comme il dit, c'est aux équipes. S'ils veulent déléguer une femme au conseil d'administration,
oui, correct, là,
mais ils pensent pas qu'ils vont lâcher le morceau. Là.
Bonjour, ici Cole Caulfield. Oui. Vous écoutez mon ami Paul Arcand.
Pas de nouvelles pour le contrat. Là. Je m'en vais en vacances dans cette semaine.
Je sais
l'autre,
pas si y a des rumeurs, Paul, qu'il y aurait peut-être, on serait peut-être près d'une entente.
Et sérieux?
Oui, mais c'est des rumeurs. Il y a des rumeurs.
D'accord. Je veux pas déranger les gens par seul avec ça, là, mais...
Est-ce qu'on t'appelle en Europe, si jamais?
Ah ben oui, s'il le faut. C'est comme... en tout cas, mais moi, le lundi, je vérifie. Puis si jamais tu as mon numéro de téléphone, tu peux me texter si jamais...
Il y a eu des rumeurs!
Mais ça, c'est sûr. Fait que, toujours des rumeurs. Mais...
C'est 23.